À Rencontre aujourd'hui, une émission spéciale qui suit un peu celle de mardi dernier. Mais c'est pas nécessaire d'avoir entendu celle de mardi dernier. Et le sujet, c'est un sujet crucial. Dieu s'est-il vraiment incarné? En Jésus-Christ, quoi. Et pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser et que tout le monde se pose, je pense bien. À moins d'avoir une foi si inébranlable qu'on ne se pose plus de questions. Évidemment que c'est une question qu'on pourrait se poser au moment de Noël. Il y en a qui disent que c'est toujours Noël, au fond. Nous célébrons toujours cette grande joie de Dieu qui s'est fait homme. C'est tous les jours, pour le chrétien, une joie sans borne de savoir que Dieu a vécu parmi nous, qu'il s'est fait l'un de nous, et qu'il a partagé nos joies et nos souffrances, et qu'il est venu surtout nous révéler ce grand amour de son Père, lui le Fils éternel. C'est un immense mystère, et c'est une grande joie que d'en parler. Ça m'est d'autant plus une grande joie que pendant plusieurs années, j'avais malheureusement cessé d'y croire. Ça nous arrive. Si ça vous arrive, ne vous désolez pas trop. Priez et relisez l'évangile de Saint Jean, comme j'ai fait. Et puis communiez avec plus de ferveur. En vous disant que dans sa grâce, l'Esprit Saint peut nous pénétrer, nous éclairer à ce sujet. L'incarnation, qui est évidemment l'union avec la chair de Dieu lui-même, c'est le mystère du Fils de l'homme, du Fils de Dieu qui se fait homme. Saint Jean l'exprime dans le prologue. Vous savez, autrefois on lisait pour nous les plus vieux un dernier évangile à la fin de la messe. C'était le début de l'évangile de Saint Jean. Ceux qui n'ont jamais médité le début de l'évangile de Saint Jean, à peu près, disons, une trentaine de versets, le premier chapitre, auraient tout à gagner à le méditer. Hein, c'est magnifique. Je lis cette phrase au verset 14, donc du début de l'évangile de Saint Jean. « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Et Saint Paul, qui va dire aux Philippiens, lui, au chapitre 2, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il s'est anéanti lui-même, en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes. Ça me tente de, pour vous faire sourire un peu, parce que c'est un peu compliqué des fois à parler de tout ça, hein. On peut faire ensemble une comparaison. Pas s'il y en a parmi nous qui aimeraient, disons, par grande bonté pour aider les crapauds, se faire semblable à un crapaud. Non, j'ai pas l'impression. Ça peut nous aider à réfléchir, hein? Bon, soyons un peu plus sérieux. Ça veut dire, de toute façon, l'incarnation, que la personne du Verbe, du Fils éternel de Dieu, qui de toute éternité, quoi, possède la nature divine, a pris à un moment du temps, là, il y a 2000 ans. On dit d'ailleurs qu'il y a 2000 ans, l'an dernier, qu'il serait né d'ailleurs 4 ans avant notre ère, hein, si on avait vraiment fait les bons calculs pour les dates, hein, que celui qui a fait les calculs au 6e siècle s'est trompé un peu. Et alors donc, il a pris à un certain moment une nature humaine, il y a 2000 ans. Et c'est là évidemment un fait qui nous dépasse. Et l'on comprend que dans le but d'oublier tout ça, bien des hommes se sont décidés à tout nier, comme j'ai fait malheureusement pendant un certain temps. Et je ne les blâme pas, puisque j'ai fait partie de ces gens terribles, au fond. J'étais terrible. Ils ont tenu, ces gens-là, et ils tiennent encore à nier, soit l'élément divin en Jésus. Hein, je vous ai déjà parlé des Ariens en parlant de Saint Athanase. Il y a toute une belle émission là-dessus, puis j'y suis revenu. Belle, entendons-nous. C'est pas moi qui dis qu'elle est belle, c'est les auditeurs. Et ce sont les Ariens, des schismatiques, des hérétiques, comme on l'a dit, au IVe siècle, puis aussi, bien certains protestants dès le XVIe siècle, qui ont nié l'élément divin. De nos jours, évidemment, les rationalistes, les gens qui veulent trop raisonner, puis aussi les protestants libéraux, beaucoup plus nombreux qu'on pense, hein. On n'en entend pas tellement parler, des protestants libéraux, bon, ils vont leur petit train, ils ont leurs églises magnifiques, souvent, ils prient admirablement bien, ils font beaucoup de bien, ils sont extrêmement sympathiques, moi je les apprécie beaucoup, et j'aime parfois aller prier avec eux. Il y a aussi certains modernistes chez les catholiques, hein, qui nient l'élément divin chez Jésus-Christ. Le Christ serait une créature très parfaite, mais il ne serait pas Dieu. D'ailleurs, on avait fait une enquête il y a 50 ans dans le magazine Time, j'ai gardé la page. Près de la moitié des pasteurs protestants pensaient comme ça. N'acceptaient plus la divinité de Jésus, les pasteurs protestants américains. D'autres, pensent ou nie l'élément humain. Ce sont les gnostiques du premier siècle. C'est très rare aujourd'hui, ça. Le Christ n'aurait eu qu'une apparence de corps. Il aurait été un fantôme sans réalité qui cachait Dieu. Bon, passons. D'autres, troisième groupe, nient l'unité de la personne du Christ. Ça, c'est plus compliqué. Ça existe encore aujourd'hui. C'est Nestorius, au 5e siècle, qui pensait comme ça. Et on dit qu'un prêtre nestorien a eu une grande influence sur Mohammed, Mahomet, dans sa connaissance des aspects chrétiens de l'islam que l'on retrouve dans le Coran, si vous avez déjà lu le Coran. Alors, aux deux natures divines, ces gens-là, les deux natures divines et humaines du Christ, auraient correspondu deux personnes distinctes dans le même personnage. Le Christ aurait joué un double personnage. Alors, face à ces trois hérésies, bien, la doctrine catholique enseigne encore et toujours la réalité de deux natures complètes dans une seule et même personne. Je répète, deux natures complètes, divines et humaines, dans une seule et même personne, Jésus-Christ. Savez-vous que dès l'an 461, le pape Saint Léon le Grand l'explique très bien. La majesté s'est unie à la bassesse, la puissance à la faiblesse, ce qui est mortel à ce qui est éternel. Une nature inviolable à une nature susceptible de souffrir. Le vrai Dieu est né dans la nature intégrale et parfaite d'un vrai homme, tout entier avec ce qui est à lui, tout entier avec ce qui est à nous. Imaginez. Ça fait déjà plus de 1500 ans que ça a été dit, ça. Et c'est très clair. Je m'explique un peu. Le Christ possède donc la nature divine, avec une intelligence divine, une volonté divine. Je vais vous prouver tout à l'heure que tout ça est vrai. Comment ça se fait que moi je suis revenu à la foi, hein? Le Christ possède la nature divine, avec l'intelligence divine, volonté divine, j'ai dit, mais il possède aussi la nature humaine, un corps, une âme, avec une intelligence humaine puis une volonté humaine. Les deux. C'est pas une personne humaine qui aurait reçu en plus la nature divine. Mais c'est une personne divine qui s'est unie une nature humaine. Et c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui agit par cette humanité. C'est elle. C'est elle qui a pris la responsabilité des actes accomplis par cette nature humaine puis leur a donné aussi leur valeur infinie. Bon. Qu'une nature humaine et puis être élevé jusqu'à Dieu, c'est déjà mystérieux. La nature humaine et puis élevé jusqu'à Dieu, c'est mystérieux. Mais que Dieu se soit abaissé jusqu'à prendre la condition humaine, c'est un mystère plus grand encore, qui pose de nouveau le problème de l'amour de Dieu pour nous, hein, l'amour de Dieu pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, je vous l'ai dit, hésitait devant ça, mais elle acceptait aveuglément. Car il y a des preuves. Je vais vous les donner tout à l'heure. Parce qu'il est vrai Dieu, ce Jésus-Christ. Oui, il l'est. Vous voulez des preuves? Tiens, voici. Au cours de sa vie publique, le Christ affirme progressivement sa divinité. Il se déclare plus grand que David, Élie, Moïse, supérieur aux anges qui sont ses ministres. » Vous direz, il peut bien parler. Oui, mais un juif qui dit des choses aussi étranges que ça et aussi audacieuses, ce sont des blasphèmes épouvantables. Et que les écrivains qui ont écrit sa vie, ou à peu près sa vie, ou qui ont rapporté des éléments de ce qu'il a dit, les évangélistes, là, ils étaient des juifs aussi, puis ils ont osé écrire des blasphèmes pareils. Il faut qu'il y ait cru et qu'il l'ait prouvé par toute sa vie. Me semble. Jésus s'attribue le pouvoir de refaire les âmes. C'est tout un pouvoir, ça. Qui est tout à fait contraire à ce que on pensait dans le temps. Il s'attribue le pouvoir de remettre les péchés. Ça avait créé un scandale. Il dit qu'il a le pouvoir d'être un jour le juge souverain des vivants et des morts, imaginez. Il va juger les vivants et les morts. Il prétend qu'il a le pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit puis de donner la vie éternelle. Est-ce que c'est assez pour vous? Mais non, il y en a bien d'autres. Jésus veut qu'on croie en lui comme on croit en Dieu, qu'on l'aime par-dessus toutes les créatures, il le dit, hein, jusqu'au sacrifice de sa vie comme on aime Dieu. Va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Il veut qu'on s'attache à lui comme on s'attache à Dieu. Il veut qu'on cherche le salut, ou si vous voulez, l'illumination, la libération totale. Des platitudes et du désespoir. Il le veut. Il veut qu'on cherche ce salut-là. Où? En lui, comme on le cherche en Dieu. C'est extraordinaire, hein? Je ne sais pas si vous me suivez, là. Moi, ça m'a tellement aidé quand j'ai réfléchi à tout ça il y a déjà un bon bout de temps. J'étais bien jeune. Puis Jésus se donne comme l'égal de celui, Dieu, qui, sur le Sinaï, vous vous souvenez, on voit ça dans des films sur Moïse, hein, quand il reçoit les tables de la loi, et la loi qui est écrite par Dieu. Mais il se considère comme l'égal de ce législateur divin du Sinaï. Il affirme qu'il ne fait qu'un avec le Père Céleste. Il ne fait qu'un avec le Père Céleste. Et là, 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 là. Enfin, il laisse solennellement proclamer par Pierre sa qualité de fils de Dieu quand Saint-Pierre lui dit, puis déclare formellement au grand prêtre aussi sa divinité, je vous cite les paroles, c'est bien ces paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Moi, c'est une des paroles qui m'a le plus bouleversé. Qu'un homme intelligent, normal, bon, généreux, tendre, humble, et qui s'occupe des autres, et qui guérit les autres, et qui rassemble les gens, et les gens qui l'ont suivi sont prêts à mourir pour lui, ait dit des paroles aussi incroyables. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit aussi, tes péchés te sont remis, dans Saint-Luc, chapitre 5. Moi et le Père, nous sommes un, dans Saint-Jean, chapitre 10. Toutes choses m'ont été données par mon Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Puis quand Pierre lui dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, il lui répond, heureux es-tu, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis quand on lui demande, vous vous souvenez, avant de mourir, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il répond, tu l'as dit. Or, ces déclarations, le Christ les confirme par des miracles innombrables, puis par toute sa vie d'ailleurs, dans lesquels il montre sa maîtrise absolue sur la nature, hein, sur l'homme aussi, et même sur le démon. La résurrection de son corps, surtout, annoncée comme la preuve de sa divinité, va venir couronner son témoignage. Ça vous convainc peut-être pas, moi ça m'a convaincu, ça a bouleversé ma vie. Et je me suis jeté à genoux et je l'ai adoré. Et je communie chaque jour depuis, avec beaucoup de tendresse et d'amour. Oh, m'excuse de parler de moi, nous sommes des millions comme ça. Des centaines de millions sur cette terre, je ne suis que le dernier de tous ceux-là. Je viens de vous parler de Jésus-Christ comme Dieu. Mais il est aussi un homme véritable. Oui, c'est un homme vrai, un vrai homme, comme nous tous. Le Christ en tant qu'homme a eu un corps qui a été conçu par la Vierge Marie. On célèbre ça le 25 mars, au moment de l'Annonciation, 9 mois avant sa naissance. Lors de l'apparition de la première cellule dans le corps de la Vierge Marie, quand elle a dit oui à l'ange Gabriel, c'est déjà un corps bien réel. Ce que nous avons vu de nos yeux, va dire saint Jean, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Quelle vigueur c'est ce jeune homme, qui crie plus tard. Mais lui, il a vécu ça jeune, vers une vingtaine d'années. Il était avec Jésus, il avait 18, 19, 20 ans. Vous trouverez ça dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 1, au tout début. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Ce corps, les évangélistes nous le représentent dans toutes les attitudes. On nous en parle debout, assis, couché sur un divan, étendu au fond d'une barque, apesanti par le sommeil, agenouillé ou prosterné à terre dans la prière. Les évangélistes nous le montrent aussi, sujet à toutes les faiblesses humaines peut-être, tourmenté par la faim. À un moment donné, Jésus est dévoré par la soif, est accablé de fatigue. Il est couvert d'une sueur de sang au jardin de Gethsémani. Et c'est médicalement prouvable. Une grande peur peut faire suer le sang. Puis il est déchiré par les coups, lors de sa passion, transpercé par la lance après sa mort, son corps. On en voit les traces sur le linceul de Turin. Les gestes de ses mains sont décrits avec précision et amour. Ses mains bénissent les enfants, elles touchent les malades pour les guérir. Elles touchent aussi les morts pour les ressusciter. Et les mains de Jésus chassent les vendeurs du temple, car il a du caractère. Ses mains lavent humblement les pieds de ses disciples. Ses mains rompent le pain. Puis, ce sont ses mains qui font circuler cette première coupe sacrée, remplie de son sang, de son âme si pleine d'amour. Toutes les nuances de son regard sont notées aussi, un regard tendre sur le jeune homme riche, un regard brillant d'indignation sur les incrédules. Il a un regard admiratif devant l'aumône de la pauvre veuve. Vous savez qu'il n'y avait rien à donner, et qu'il a donné une petite chose, et pour lui, elle avait pu donner. Ce sera la quête bientôt pour les missions dans nos églises, si vous ne pouvez donner que 25 sous, c'est 25 sous. Mais dites-vous bien que ça ne fait qu'une demi-cène par semaine pour les missionnaires, ça. Car il faut toujours diviser par 50, c'est une quête annuelle, il y a 50 semaines. Si vous donnez 50 dollars, ça fait 1 dollar par semaine. C'est pas beaucoup non plus. Si vous êtes riche. Si vous êtes riche. Si Dieu vous a comblé. Pensez-y. Ah. Toutes les nuances de son regard aussi sont donc notées. Ce regard tendre, j'ai dit. Brillant d'indignation aussi sur les incrédules, qui admirent l'aumône de la veuve. Mais ce regard est chargé de reproches et de douloureuses affections sur l'apôtre Pierre qui est devenu un renégat. Oui, le premier pape a été un renégat, mais c'est bien fait pardonner ses fautes. Il est mort la tête en bas, ne voulant pas être crucifié la tête en haut comme son maître. Il a préféré crucifier la tête en bas, cher saint Pierre. Quand on peut vénérer sa tombe sous l'autel du pape à Rome, dans la basilique du Vatican. On a les larmes aux yeux. Sa voix prend toutes les intonations à Jésus. Il a la fermeté, l'autorité, l'ironie, la joie, la tendresse. N'oubliez pas que son corps, un vrai corps, était vigoureux. On peut le voir d'ailleurs par le linceul de Turin. C'est un corps vigoureux, très bien bâti. Il y avait à peu près 5 pieds 11. Il était exempt d'infirmité aussi. Il était capable de se soumettre à des veilles fréquentes, ça nous y est raconté. Il pratiquait des jeûnes prolongés. Il savait affronter les intempéries de l'air. Il s'allait faire de longues randonnées, il s'est promené jusqu'au Liban, etc. Puis il prêchait aux foules. Puis il avait parfois des instances indiscrètes qui lui arrivaient. Il était patient devant des malades. Il a discuté avec les scribes. Puis il donnait des explications sans cesse, il revenait là-dessus aux apôtres pour essayer de leur faire comprendre. Rien ne semble venir à bout de ce corps du Christ, tandis que les apôtres, pour la plupart rudes pécheurs, s'avouent harassés, eux, et ils se plaignent. La vue du Christ provoquait l'admiration aussi des mères. Hein? Bienheureux celle qui t'a porté. Les enfants couraient à lui, s'ublutissaient sans crainte dans ses bras. Oh, des bras accueillants qui serrent les enfants contre lui. Puis séduisait les foules aussi. Le Christ était doué, on peut dire, de la sensibilité la plus authentique. Et devant les beautés de la nature, il était rempli d'admiration. Sans cesse, il attirait sur elle l'attention de ses disciples. Il parle des oiseaux du ciel, des blés mûrissants. Il parle aussi des vignes chargées de grappes. Vous vous souvenez, parle aussi du lys des champs qui est si beau. Il vibrait à tous les sentiments humains, mais surtout à l'affection. Oh, il avait une prédilection pour son jeune apôtre et disciple Saint Jean, je vous en ai parlé, dit un mot tout à l'heure. Hein? Oh oui, il aimait ce jeune homme profondément, car il voyait en lui ce grand saint. Il en a eu aussi de l'affection profonde pour Lazare. Et quand il apprend que Lazare est mort, il pleure. Il pleure aussi sur Jérusalem, qui ne veut pas le recevoir. Il se penche surtout sur les faibles, les malades, les enfants, les pécheurs. Personne n'est exclu de sa tendresse, et pas même ses ennemis. Donc, son intelligence humaine est continuellement en éveil. Sa connaissance divine des choses est évidemment parfaite, mais sa connaissance humaine, celle qu'il acquiert par l'exercice des facultés, de ses sens, puis de la raison, cette connaissance a cru à mesure, a augmenté à mesure que les sens apportaient de nouvelles impressions. Juif, il connaissait une foule de détails de la vie quotidienne des Juifs, puis s'en servait avec un à-propos remarquable pour exprimer sa pensée. Quelques traits lui suffisent d'ailleurs pour faire vivre devant nous les paysans, les pêcheurs, les vignerons, le trafiquant de pierres précieuses aussi, le fermier, le marchand, c'est tout dans l'Évangile, ça. Puis le travailleur journalier, l'entrepreneur, le jardinier, la ménagère, la pauvre veuve. Tout comme le juge même, le chef d'armée, le roi. Très riche, nuancé, les paraboles nous décrivent la vie populaire dans sa simplicité. L'enfant qui joue bruyamment dans la rue. Vous vous souvenez de ça, hein? Les larges bandes de prières des scribes. Les docteurs de la loi avec leurs longues houppes, le cortège nuptial dans la nuit silencieuse, puis le festin joyeux, la rigueur de l'étiquette à la table du festin, le pauvre mendiant couvert de plaies dans la rue, puis il connaît le public intimide dans un coin du temple. La sagesse de ses réponses remplit d'admiration ses ennemis eux-mêmes. Ses réparties sont vives, sont spirituelles. Ah, ce cher Jésus, sans le moindre effort, il présente des pensées sublimes, en des termes très simples. Et ce qui est le plus frappant encore, c'est que sa façon de parler, tout en s'adaptant parfaitement à ses auditeurs, reste accessible à tous les esprits de tous les temps. Hein? Et puis Jésus possédait une volonté humaine extraordinaire. Hein? Elle était ferme, elle était concentrée, ses ordres sans réplique. Et les décisions de Jésus sont sans reprise. Il était ardent, passionné, et cependant toujours maître absolu de ses paroles et de ses gestes. Et durant sa passion, il va rester calme. La souffrance, cette épreuve qui décèle les vrais caractères, là, elle va le trouver sensible, on le sait. Mais il reste en pleine possession de lui-même. Il va s'imposer comme maître absolu. Mais il y mêlera une telle douceur, un tel sens des difficultés, il va entraîner sans peine les foules à sa suite, tout en leur présentant un programme de vie exceptionnellement austère, hein, comme Jean-Paul II aujourd'hui, son programme est austère, il change pas le programme pour plaire à ci et à ça. Il leur dit pas, vous pouvez faire n'importe quoi pourvu que vous aimiez, ben pas du tout. Il fait comme Jean-Paul II aujourd'hui. Cette volonté humaine était distincte de la volonté divine, mais parfaitement soumise à la volonté divine. Je vous disais que la volonté humaine de Jésus est distincte de sa volonté divine, mais elle est parfaitement soumise à la volonté divine, dans cette unité de sa personne. Et c'est ainsi qu'il a pu dire, souvenez-vous, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est dans Saint Jean, chapitre 6. Il dit aussi au jardin de Gethsémani, « Père, si vous voulez, voyez de moi ce calice. » Il a peur, il a peur. « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. » En somme, quand on y pense, on peut dire que l'incarnation, c'est la réalisation parfaite du plan de Dieu. Dieu avait décidé, en effet, de créer des êtres libres, qu'il attirerait à lui, dans le rayonnement de la Sainte Trinité, afin que tous ces êtres, tous les hommes, toutes les femmes, jouissent d'un bonheur éternel. Je vous en ai parlé mardi. Or, les hommes et les femmes aussi ont repoussé ce projet de Dieu. Or, par l'incarnation, Dieu triomphe, malgré tout. Comment ça? Et il exécute de la manière la plus parfaite son projet. Il s'unit pour toujours dans la personne du Verbe une nature humaine créée. Et Dieu réalise ainsi dans le Christ Jésus cette espèce de synthèse rêvée de l'œuvre et de l'ouvrier, de la créature et du créateur, ou si vous voulez, de l'homme et de Dieu, justement. Et durant toute l'éternité, la Sainte Trinité va être objet d'une adoration de valeur infinie de la part de la création. Elle sera adorée et aimée par la nature humaine qui est unie dans le Christ à la deuxième personne divine. C'est le rôle de tout homme et de toute femme de vivre comme ça. Dès ici-bas, on comprend à présent pourquoi Dieu, ayant prévu de toute éternité la faiblesse de l'homme et de la femme, a voulu l'incarnation du Verbe comme la pure réalisation de ses projets d'amour. Ces projets d'amour qui permettent aux hommes de se tourner vers le Christ et d'obtenir le pardon de toutes leurs fautes, pour enfin vivre, vivre, vivre de cet amour dans le rayonnement de la Sainte Trinité durant l'éternité. Quel merveilleux plan! Comme je vous l'ai dit mardi, ce que Dieu a voulu de toute éternité, c'est notre monde. Altéré, certes, par le péché, mais purifié et unifié dans le Christ. Parce que c'est le monde où il veut montrer le plus d'amour. Ainsi, quand on y pense, ce que tu vois à l'avant-plan de son œuvre, c'est le Christ Jésus. Le monde, il ne le voit que par lui, en lui, avec lui, et on le dit d'ailleurs à la messe, juste avant de réciter le Notre Père, tous les jours. Toute créature ne lui est agréable à Dieu notre Père que dans la mesure où elle s'intègre dans son Fils, le Christ. Mais sommes-nous vivants et intégrés au Christ? Sommes-nous vraiment vivants et intégrés au Christ? Sommes-nous passionnés par le Christ? Sommes-nous amoureux de lui au centre du monde, dominant tout, illuminant tout? Il n'y a pour Dieu que le Christ, il est l'alpha et l'oméga de toutes choses, comme on dit en grec. Il est le début et la fin. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, puis oméga, la dernière. Il est le début et la fin. C'est toujours de lui que le monde regarde. Le monde gravite autour du Christ, le vrai monde, debout. L'événement capital dans les annales de l'humanité, de toute façon, c'est la venue de Dieu parmi nous. D'ailleurs, nous comptons les années d'après cet événement, même si c'est une petite erreur de 4 ans. Et on dit toujours avant Jésus-Christ, puis après Jésus-Christ. Nous sommes en l'an presque 2000 après Jésus-Christ. Et quelques heures après la résurrection, souvenez-vous, Marie-Madeleine pleurait près du tombeau vide. Lorsque quelqu'un s'approche, elle le prend d'abord pour le jardinier, mais quand il lui dit, d'une voix qu'elle connaît, « Mariam, Mariam », elle reconnaît aussitôt le Seigneur et se prosterne. Elle murmure, pleine de respect, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Et Marie-Madeleine représente l'humanité avec sa nostalgie du bonheur. Nous avons tous cette nostalgie du bonheur. Elle représente l'humanité avec son besoin d'une solution au problème de la vie, son désir de trouver un guide et un maître, et c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. N'allez pas chercher ailleurs, de grâce, je vous en supplie, allez vers Jésus. Faites comme Marie-Madeleine, elle a eu alors la seule attitude qui s'imposait, c'était l'adoration. Quelle joie, quelle tendresse, quel abandon elle a dû mettre dans ce mot « Rabboni », maître. Le chrétien qui est digne de ce nom, c'est un disciple du Christ. C'est avec la même joie, la même tendresse, le même abandon qu'il répète « Rabboni, maître, maître ». Sa religion n'est pas un ensemble de beaux principes. C'est pas ça la religion, c'est pas des beaux principes. Les chrétiens s'achevalent sur des principes, il n'y a rien de plus desséchant. Ce n'est surtout pas un code de prescription. Nous ne sommes pas comme les juifs qui observent des tas de prescriptions, et même les musulmans qui ont beaucoup de prescriptions. C'est pas ça. C'est avant tout, notre religion, elle est unique en ce sens, l'attachement passionné à une personne, divine autant qu'humaine et qui annonce Jésus-Christ. Le chrétien reprend son compte ses paroles des auditeurs de Palestine. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Hein, vous lisez le texte, c'est dans Saint Jean chapitre 7. Ou les paroles de Saint Paul, et pour moi, vivre, c'est le Christ. Ou celle d'un autre disciple de Jésus. Il est celui, c'est René Bazin qui a dit ça, il est celui qu'avec des millions de vivants et des milliards de morts, j'ai l'honneur d'appeler notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, moi, ça me touche toujours. Hein. Quand je vois les foules, c'était l'anniversaire de l'élection de Jean-Paul II hier, j'étais heureusement sur la place Saint-Pierre à ce moment-là, je venais de finir un film à Turin, puis mon ami Louis Laurendeau, ami d'enfance, le secrétaire du père Arup et du général des Jésuites m'avait invité à loger à Rome. Et j'ai pu assister, j'étais sur la place Saint-Pierre, vous savez la joie qu'on partage. Ah, c'est fantastique, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Être chrétien, c'est introduire le Christ au centre de sa vie et n'agir que pour lui et avec lui. Hein. Je vais revenir là-dessus un jour. Pensez-y deux secondes. Quand un alpiniste tombe, on voit ça des fois à la télévision, par sa faute, là, dans une faille, puis qu'il a entraîné avec lui toute la cordée des gens qui grimpent avec lui sur la montagne. Bien, s'il y a un guide mercenaire, un guide payé, là, qui voit ça, il va se contenter de loin de donner quelques conseils aux malheureux voyageurs, qui sont privés de nourriture, qui sont blessés, qui sont découragés, et qui cherchent sans être capable à remonter la pente qui est très abrupte hein, pour remonter vers la lumière. Mais au contraire, un vrai guide de montagne, là, celui qui aime son métier d'homme, n'hésite pas, lui, il abandonne sa situation privilégiée, sûr. Il fait comme Jésus, quoi. Il descend jusqu'au fond du gouffre, il se mêle aux voyageurs, il s'identifie le plus possible à eux, puis il partage leurs souffrances. Il fait sienne leurs inquiétudes, il prend sur lui les conséquences de la faute qui a été commise. Puis, comme premier de cordée, là, comme on dit, il entraîne avec lui ceux qu'il veut sauver, tout en demandant la collaboration, évidemment, de chacun, à la mesure de ses forces. Et c'est ainsi que Dieu a réalisé notre libération, notre rédemption. Le Verbe s'est fait l'un de nous, il s'est abaissé jusqu'à nous, il a assumé notre nature et notre malheur, il a fait corps avec nous, pour mieux prendre sur lui les conséquences de nos fautes innombrables. Puis comme premier de cordée, premier-né d'entre les hommes, va dire Saint Paul, il nous a donné le moyen de remonter la pente. Oui, croyez-le, c'est vrai. Les saints l'ont expérimenté, je vous en parle, je vous en ai parlé hier de Saint Gérard Magella, avant-hier de Sainte Thérèse d'Avila. Ils sont montés avec le Christ et nous ne sommes sauvés qu'en lui. C'est lui seul qui est le Rédempteur. En lui seul, nous réparons nos fautes. C'est en faisant corps avec lui que nous pouvons rentrer dans l'amitié de Dieu. Saint Jean, qui a parlé beaucoup de la rédemption, cette grande libération, la montre comme un mystère d'unité dans le Christ. Et Saint Paul la présente peut-être plus fortement encore, comme le même mystère d'unité. C'est en nous reprenant en lui, en nous récapitulant en lui par son sang, par son âme pleine d'amour, comme je vous dis souvent, le sang c'est l'âme chez les Juifs, en nous donnant en lui la vie, la justice, la sainteté, en nous faisant fils de Dieu en lui,
en résumant en lui toute la race comme en un second Adam, et en détruisant en lui le mal qu'avait fait à tous le péché des hommes et des femmes. C'est en nous incorporant sa nouveauté de vie par le baptême que le Christ est notre salut et notre rédemption. Tout dans cette rédemption se ramène au grand principe de la solidarité, à la vérité du corps mystique, quoi. Le corps mystique est le corps du Christ, dont il est la tête et nous sommes les membres. Et c'est pourquoi le Verbe incarné a parcouru les différentes époques d'une existence humaine, afin de nous donner l'exemple de la vie parfaite. Et c'est pourquoi il a choisi, quoi? La pauvreté. Il a choisi aussi la douleur, les privations de tout genre. Qui n'éprouve pas une certaine pauvreté? Qui n'éprouve pas, par son travail souvent, un accablement? Qui n'éprouve pas une douleur, des maladies, des peines de chagrin, des deuils, peines d'amour, des privations de tout genre? Mais il a tout vécu ça, lui. Se faisant ainsi l'un des nôtres, aucune créature humaine ne pourrait reprocher à Dieu maintenant de la soumettre à une épreuve qu'il n'aurait pas connue, acceptée et endurée personnellement. Tout être humain, oui, tout être humain, quelle que soit sa tâche ou sa souffrance, trouve désormais dans le Christ Jésus un devancier, un modèle et un soutien. Le Christ a tout pris sur lui et il nous a montré le chemin de la vie. La vraie vie qui vient de lui, car il est la vie, il est Dieu. Ce sacrifice total de lui-même que le Christ a accepté et a offert en notre nom à Dieu constitue l'acte central, le point culminant de la rédemption avec la résurrection. Il convient de nous y arrêter. Oui, parce que comme ce sacrifice reproduit les phrases essentielles d'un des sacrifices juifs, celui de la Pâque, il faut rappeler tout d'abord ce qu'est un sacrifice. Je vais examiner avec vous ensuite le sacrifice de la Pâque juive. On comprendra mieux alors le sacrifice de Dieu, le sacrifice du Christ. D'abord, le sacrifice consiste essentiellement dans une offrande. C'est ça, un sacrifice. Une offrande. Faite à Dieu, d'un objet ou d'un être qui nous appartient, afin de reconnaître sa toute-puissance, de le remercier, de lui dire « je t'aime », le remercier de ses bienfaits, lui demander une faveur, ou bien réparer aussi une faute, en le consolant de la peine que nous lui avons faite. Ce qu'on offre à Dieu devient dès lors sa propriété exclusive, et c'est une chose sacrée. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça un sacrifice. Sacrum facere, ça veut dire rendre sacré. C'est tout. Oui. Sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Et pour bien montrer que nous cessons d'être propriétaires, disons, de la chose offerte, mais le sacrifice pouvait s'accompagner, quand la chose s'y prêtait, de l'immolation sanglante d'une victime offerte d'un animal, etc. C'est ce que les Juifs faisaient, n'est-ce pas, au temple. Il y avait tué je sais pas combien d'animaux par jour. Puis les musulmans qui tuent encore des millions d'animaux, en Arabie Saoudite en particulier, ils font ça encore. Ils offrent ça à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, en quoi ça peut plaire à Dieu que de tuer tant d'animaux. Mais enfin, on dirait qu'on a besoin de ça. Mais puisque la victime devient chose sacrée, chose divine, c'est une manière d'entrer dans l'intimité de Dieu, ça, puis de participer à sa vie. C'est ça le sacrifice de la messe finalement, que de se nourrir de la victime, comme faisaient nos ancêtres. Si on peut la consommer, à la messe on le peut. Et c'est aussi une manière de s'unir étroitement à elle et de s'offrir à Dieu avec elle. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui suit. Et cette fête, la Pâque juive, était la plus solennelle des fêtes juives. Elle perpétuait parmi les Juifs le souvenir de la sortie d'Égypte et de la marche vers la terre promise. Et nous allons voir tout à l'heure en quoi le repas juif et notre repas de l'Eucharistie ont des connotations importantes, mais le nôtre est rempli et chargé à plein par l'amour de Jésus. J'ai abordé en deux mots le problème de la fête juive, la Pâque juive, cette fête qui était la plus solennelle des fêtes juives. Elle perpétue toujours parmi les Juifs le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération de la marche vers la terre promise. C'est un très beau symbole pour toute l'humanité, ça. Sortir de l'esclavage, de la bêtise, et devenir libre avec Dieu. Or, le rite de ce repas est plein de souvenirs puis de symbolisme grandiose. Celui qui présidait la table entonnait un hymne d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Il présentait à ceux qui étaient là, les convives, une première coupe de vin. Puis on se purifiait ensuite les mains. Puis on mangeait des herbes amères et le charozet. Et alors avait lieu le récit de la fuite d'Égypte, après lequel se passait une seconde coupe de vin, puis on se levait à nouveau, on se lavait à nouveau les mains, là. Puis enfin, on mangeait du pain azim puis l'agneau pascal, dont aucun os ne pouvait être brisé. Hein. L'agneau devait être entièrement consommé par les convives présents. Les restants devaient être brûlés, puis une troisième coupe de vin circulait à la fin du repas. Alors, en cette année-là, le Christ, qui est juif, se soumet évidemment une dernière fois aux prescriptions de la loi avant de mourir, hein, en concernant la Pâque juive, ce repas d'action de grâce. Comme les années précédentes, un agneau est donc immolé au temple, son sang versé, sa chair consommée par Jésus et les apôtres dans la salle qu'un habitant de la ville de Jérusalem a mise à leur disposition. C'est à la fin de ce repas que Jésus institue le sacrifice nouveau, qui va être le point culminant de sa mission. Et alors que les disciples sont encore réunis autour de la table, Jésus prend du pain. Il rend grâce, il le bénit, il le rompt. Il le donne à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Puis, il prend une coupe, et selon toute vraisemblance, c'est la troisième coupe de la Pâque juive. Il rend grâce, il la bénit, puis il la leur donne en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance, qui sera bientôt répandu pour la multitude des hommes, en rémission de leurs péchés. Alors un sacrifice nouveau est accompli. Le Christ offre à son Père, en notre nom à tous, la seule offrande, la seule victime agréable à Dieu finalement. Son propre corps et son propre sang, son corps et son âme, quoi. Et c'est pour être à la fois le prêtre qui offre et la victime offerte que le Christ prend du pain et du vin. Il échange en son corps et en son sang. Je vous ferai une émission un jour sur des miracles eucharistiques. Oui, oui, probablement le 1er novembre, dans la fête de la Toussaint. Car les saints ont été nourris du corps et du sang, de l'âme de Jésus. Par la séparation symbolique là, sur l'autel du corps et du sang, l'offrande sanglante, qui aura lieu le lendemain, le vendredi saint, se trouve préfigurée de cette façon. Et le Christ offre aux apôtres son corps et son sang, son corps et son âme, qu'ils s'en nourrissent et se transforment en lui. Et par ce geste, il leur donne la possibilité de s'unir intimement à lui, de s'offrir eux-mêmes avec lui, par lui, en lui, à l'amour. Oui, s'offrir à l'amour, avec l'amour. Il leur donne aussi un gage du pardon divin. Puisque Dieu reconnaît en eux son Fils bien-aimé, il ne peut que leur pardonner et les serrer dans ses bras. Geste des hommes à Dieu par le Christ, geste de Dieu aux hommes par le Christ, tel est le double élément du sacrifice offert, le jeudi saint. C'est grandiose. C'est un sacrifice réel, puisqu'il y a offrande réelle. Sacrifice non sanglant, mais qui annonce une immolation sanglante, toute faite d'amour et d'obéissance. Car le Christ offre un corps qui va être livré et un sang qui va être versé. Et dès cet instant, le Christ accepte irrévocablement sa passion et sa mort. Et il est désormais, quoi, victime, mais victime d'amour. Puis le vendredi saint, le Christ en croix reste parfaitement conscient de ce qui se passe. Aussi, il continue à s'offrir à son Père, comme il s'est offert la veille au soir. Et sans cesse, de toute éternité, il s'offre de toute façon. En conséquence, il y a le jeudi saint, sacrifice réel et complet d'une victime qui va être immolée dans un geste d'obéissance. Il a, le vendredi saint, sur la croix, sacrifice réel et complet d'une victime qui s'immole par amour. Par amour, c'est le fruit de sa mission accomplie. Il est allé jusqu'au bout de sa mission et il est assassiné. Parce qu'il a révélé l'amour de Dieu, l'amour total du Père. Et les similitudes avec la Pâque juive sont frappantes. La Pâque juive n'est d'ailleurs que la préparation puis la figure du sacrifice éternel du Christ. Chez les Juifs comme dans l'Église, un prêtre est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a un agneau sans tache, un autel, le sang coulant sur la croix comme sur un autel, aucun os qui est brisé d'un repas rituel, durant lequel la victime, devenue propriété de Dieu, est entièrement consommée par ceux qui la lui ont offerte, et ainsi s'accomplit l'œuvre, qu'on peut dire de réconciliation entre Dieu et les hommes, non pas que Dieu est fâché contre nous, mais que nous avons besoin de montrer notre amour. Et c'est la transformation de l'humanité dans l'amour. Le sacrifice est parfait, parce que la victime, qui est amour total, est parfaite. Et le sacrifice est unique, parce que l'immolation est totale, on ne meurt qu'une fois. Il pourrait être renouvelé cependant si cette victime est nouvellement offerte. Et alors la victime est vivante. Elle est ressuscitée sur nos autels et nous unissons au Christ ressuscité. Le Christ a mis simplement en pratique son enseignement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le sentiment intime du Christ, Pascal Blaise l'a exprimé dans son Mystère de Jésus, quand il fait dire au Sauveur s'adressant à l'âme, « Je te suis plus ami que tel ou tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ne souffrirai pas ce que j'ai souffert pour toi, et ne mourrai pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés comme j'ai fait. » Oui, par amour, Jésus est allé jusqu'au bout de sa révélation de l'amour de Dieu pour nous. Ou faut-il se rappeler ces paroles du Christ à Saint-Angèle de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Comment Dieu a-t-il poussé la condescendance jusque-là? Faut dire qu'à genoux devant ce crucifix que nous avons chez nous, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les gentils, comme dit saint Paul, nous ne pouvons que répéter le mot de saint Jean. Nous, chrétiens, nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour qui déconcerte notre raison, tellement il la dépasse, est le premier et le dernier mot de notre foi, le fondement de notre espérance et l'éternel aliment de notre charité. Ô Seigneur Jésus, nous vous aimons d'un amour de plus en plus passionné. Et nous disons avec les prions en église, si vous allez à la messe aujourd'hui, remarquez bien l'Alléluia, Alléluia, Alléluia, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia.